8h30, premier sujet, messieurs les commissaires, le fameux projet Royal Mount qui fait l'objet d'audience actuellement. Mais la première question que je me suis posée, à quoi ça sert au juste l'audience? Parce que le projet il est autorisé, les travaux sont commencés.
Ouais, l'ambiguïté est là. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer comme citoyen ce type de développement-là. Moi, je le dis d'emblée, moi, je préfère un développement où on développe des commerces de proximité. L'idée d'un quartier mixte avec des jeunes, des vieux, avec des endroits publics, des lieux qu'on peut... Donc, quelque chose qui a une dimension, une taille humaine. C'est le type de développement urbain que moi, je privilégie. Mais je ne suis même pas citoyen de la ville, mais même si je l'étais, je ne suis quand même qu'un citoyen. Donc, il y a une initiative de gens qui, à partir de leurs fonds privés, décident de monter ce projet-là. Puis, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, tout le monde. C'est là... Qui peut décider qu'ils ne feront pas ce développement-là? Ils ont obtenu les permis, ils investissent leurs propres sous, ils sont prêts à avoir des discussions sur les effets corollaires néfastes que ça pourrait avoir. On pense au transport essentiellement. Mais coudonc, alors là, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de plan directeur de la ville auquel tu es obligé de te soumettre. Et puis même s'il y en avait un, la ville de Mont-Royal est indépendante, il faudrait qu'elle l'ait signé. Il faudrait qu'elle l'entérine. Bref, il n'y a pas de mécanisme qui empêche carrément, même sauf certaines autorités d'ordre moral. Puis la plus convaincante était celle de M. Fischler, là, qui dirige le département d'aménagement de l'Université de Montréal. C'est pas rien. Et lui qui sabre, là, qui l'attaque violemment. Mais c'est un étrange problème auquel la ville est confrontée.
Là, il y a des gens qui nous écoutent là, et qui sont dans leur voiture puis sont pare-choc à pare-choc. Mais là, si vous êtes... précisément sur la 40, présentement, là, dites-vous que Royal Mount, là, c'est entre Descaries et la 15. Okay? On va développer là une sorte de 10-30 pour faire une image. Et selon les prévisions les plus optimistes, là, vous allez passer, à cause de ce projet-là, vous allez probablement passer dans les heures de pointe de 20 à 30 minutes de plus parce qu'il va y avoir un achalandage supplémentaire. Ça, c'est les prévisions qui sont basées sur les prévisions de d'achalandage du promoteur qui sont bien timides. La Ville de Montréal pense que ce sera pas 40 000 véhicules de plus, ça va être 70 000. Fait que si vous êtes sur la 40 présentement, dites-vous que quand Royal Mount va être fait, vous allez attendre encore plus. Juste là-dessus, dans l'agglomération, je pense qu'il y a un problème énorme. On n'est même pas dans le problème d'approche urbanistique où tu te dis, est-ce qu'on veut encore ça dans une ville? Juste sur la congestion routière, c'est un projet qui est complètement fou. Et la ville de Mont-Royal, 21 000 personnes au cœur de Montréal, une enclave indépendante qui a survécu aux fusions grâce au gouvernement de Jean Charest au début des années 2000, va pouvoir littéralement prendre en otage une grande partie de la ville. Moi, je trouve ça épouvantable.
Mais le développeur va dire, écoutez, nous, on est prêts à travailler, à avoir des solutions pour contrer ces effets-là, d'une part. Ça va être son argument de base. Puis je pense qu'ils sont sûrement sincères. Ils sont pas imbéciles au point de vouloir souhaiter qu'il y ait une congestion majeure qui les prive d'avoir du public, des gens. Et l'autre aspect, c'est que, moi, je peux dire mes préférences dans le développement urbanistique, mais la ville, effectivement, se densifie, la ville s'agrandit. Il n'y a pas de raison que Montréal se limite dans son développement. Mm. Tu peux très bien concevoir que plus de condos, plus de commerces, un accès à des salles de spectacle, enfin, les restaurants, au cœur de la ville même, ça répond à plein de besoins. Là. Tout le monde prévoit qu'il y a un achalandage. Autrement dit, le succès dans ce projet-là ne semble pas être lié à ce qui va être offert parce qu'il y a une demande, c'est ce que je comprends. Et là, c'est...
Pierre, ouais. La demande ne s'invente pas, la demande ne se crée pas. S'il y a 10 restaurants dans une rue et que j'en ouvre 3, il n'y a pas soudainement 30 % de gens de plus qui veulent manger au restaurant. Tout le monde va se séparer une assiette plus petite. Moi, ici, ce qui m'énerve un peu en termes de développement économique dans les arguments qui sont présentés, c'est, écoute, on nie un peu la part de déplacement qu'il y aura. Il y a une offre de places de spectacle qui va avoir là-bas. Il y a une offre de boutiques, il y a une offre de restaurants. C'est quoi la part de restaurants ailleurs qui vont perdre la clientèle, de salles de spectacle oui. ailleurs qui vont perdre la clientèle? Tu peux pas, je veux dire, il y a pas
ouais, mais là, en même temps,
plus, un système il y a pas un demi-million de plus de consommateurs de plus oui, qui mais... vont naître à Montréal avec Royal Mount.
Oui, mais là, toi qui es un fier défenseur d'un certain libéralisme économique, tu peux pas nier que tu as le droit de créer de la concurrence, là. On est dans cet univers-là où si j'ouvre 100 restaurants, ça se peut qu'il y en ait 90
Non, mais c'est comme quand on a ouvert des salles de spectacle en banlieue. Exact. C'est oui, clair que ça a lieu au Théâtre Saint-Denis, puis que les gens ont eu de venir à Montréal aller
donc,
voir.
C'est... De quelle façon tu veux développer la ville? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité qui peut décider d'emblée que ce projet-là, on le jette, ça va à l'égout. Et là, moi, je me dis, on est confronté à...
Mais moi, j'ai l'impression que le problème... Parce que, un, c'est vrai que ce sont des promoteurs privés. Légalement, ils ont le droit de le faire. Mais c'est toujours la même chose. Je regarde sur la Rive-Sud, tu as le 10-30 qui s'est établi. Oui. Tu as le projet solaire l'autre côté. OK? La pression... que ça va exercer sur les infrastructures, je comprends que le REM va passer, là. C'est comparable, peut-être pas, mais en tout cas, dans le même genre que ce qu'on va vivre sur la 40 et la 15. C'est-à-dire qu'on donne le projet, on le fait, puis là, après ça, on se ramasse avec les bouchons, puis là, on dit au gouvernement ou à la ville, bien là, il faudrait améliorer l'accès, puis t'as beau là, mettre une navette, puis t'as beau... C'est sûr que ça va jammer à Desquerry, puis c'est sûr que vis-à-vis la 30, ici, pas la 30, mais la 10, ça va être le même problème.
T'as ici, là... Deux intervenants qui ont tout intérêt à vraiment naviguer là, à courte vue, okay? À avoir des œillères. D'une part, Royal Mount, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent que le projet se fasse. C'est normal. Je me mets à leur place, tu as des millions et des milliards à investir. Tu veux que ça marche, parfait. Ils vont probablement avoir un bon retour sur investissement. Donc, d'une part, tu as ce promoteur-là qui dit des choses comme, écoutez, il va avoir... 40 000 véhicules de plus. Mais là, la Ville de Montréal, elle a fait ses évaluations. Il y en aura 70 000. Une fois que ça va être bâti, s'il y en a 100 000, là, c'est bâti. Tous les arguments que tu auras servis, même si tu étais dans le champ, M. Royal Mount, c'est pas grave. Tu peux pas débattre le projet. Même affaire pour les prévisions extrêmement optimistes quant au nombre de travailleurs qui vont aller là-bas en transport en commun. Ce que le promoteur Carbone Léo dit, c'est, écoutez, nous, on va avoir 63 % des travailleurs qui vont se rendre en transport en commun. La place, ce secteur-là est très mal desservi par le transport en commun. 63 % de travailleurs qui vont à job en transport en commun. C'est ce qu'on voit au centre-ville où tu as plusieurs lignes de métro, tu as plusieurs lignes d'autobus et tu as du transport de banlieue.
La seule chose qu'ils pourraient faire, là, pis ça, je te dis ça parce que je l'ai vu à New York, c'est des navettes pour les travailleurs pour le chantier. C'est-à-dire que les gens stationnent plus loin, puis on les amène dans une... À l'aéroport LaGuardia, là, qui sont en train de retaper, c'est ce qu'ils font. Ils amènent les employés de la construction par des navettes, puis ils reprennent le soir, puis ils s'en vont les reconduire. C'est la seule façon. Sinon, c'est pas vrai que le gars va venir, je crois pas ça une seconde.
Et l'autre partie là, qui a tout intérêt à pratiquer l'aveuglement volontaire, c'est la Ville de Mont-Royal. La Ville de Mont-Royal... budget annuel de 90 millions, je pense, 97 millions, là, mais juste sous la barre des 100 millions. Et l'assiette fiscale prévue pour Royal Mount, c'est 25 millions de dollars. Fait que tu as 25 millions de bonnes raisons, si tu es un des dirigeants de la Ville de Mont-Royal, de dire « il n'y aura pas de problème, ça va pas être si pire que ça ». Une fois que c'est construit, puis tu vas avoir emmerdé toute l'agglomération sur un des secteurs routiers les plus achalandés au Québec, mais bye-bye, tu as ton 25 millions
si
par année.
Si tu n'as pas d'autorité pour l'interdire, tu as deux choix, ou bien tu ne peux pas l'interdire, ils ont commencé à creuser. Donc, tu es mis devant le fait. Et là, l'autorité municipale, dont c'est pas le type de projet de développement, et les autorités qui gèrent le trafic ont intérêt à trouver des solutions qui seraient pas catastrophiques.
Et c'est ici
ou alors qu'on l'empêche, mais qui va l'empêcher?
Très bien. On va faire la pause.
Je pense qu'on va revenir là-dessus.
Oui, je suis certain.
Dans les semaines à venir.
Là, on va parler de la pub de Gillette. C'est toujours le rêve d'entreprise. Ça, tu fais une pub qu'elle soit assez controversée pour faire jaser, là, puis le virage maintenant, puis on parle de ça après la pause. Mais juste avant, voici Marc et les nouvelles de la 20.